A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Insolente princesse et pétillante petite perle poulard. Voilà ce que m'évoque Ndeye Fatou Kane, la trentaine, nonchalamment installée dans le fauteuil d'en sol majeur. Il ne lui manque qu'un verre de Bissap pour faire croire totalement à cette apparence. Vous avez dit nonchalante ? Moi je dirais amoureuse universelle et sénégalaise impatiente. Bon, on va ranger les adjectifs et sortir les dossiers. Diplômée d'une école de commerce en transport et logistique internationale, Ndeye Fatou Kane a deux, trois choses à vous dire, messieurs, mesdames aussi. Et elle vous l'écrit de façon romanesque d'abord avec le malheur de vivre et de façon plus pamphlétaire avec, vous avez dit féministe, et oui, les tontons, tatas, grands et petits frères de l'Afrique. Cette lectrice de Simone de Beauvoir et d'Awa Thiam est une Sénégalaise qui vous aime et vous châtie bien. Salam alaikum, Ndeye Fatou Kane.
Alaikum salam, Yasmine.
Pour dire bonjour en poulard, cela dit, on fait comment?
Mbada, non mbada, maoudoum.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce proverbe qui dit « qui aime bien, châtie bien » ?
Oui, totalement. Totalement parce que je crois que l'amour n'empêche pas de se dire la vérité, de se regarder dans les yeux. Ça permet d'avancer, de consolider la relation.
Donc vous grondez l'Afrique parce que vous l'aimez ?
Oui, parce que je l'aime beaucoup et je veux qu'elle avance, qu'elle sorte un peu de sa torpeur, qu'elle ait un coup de fouet et qu'elle se dise que le monde avance, il faut qu'elle avance avec lui et qu'elle ne soit pas à la traîne.
Alors avant de gronder, allons gratter à la porte d'un grand guitariste peul sénégalais, Monsieur Baba Mal, très investi d'ailleurs hein, politiquement comme musicien. Ça veut dire quoi Bouyel, ce morceau que vous avez programmé?
Alors Bouyel, c'est l'un de ses morceaux phares, je dirais. J'ai pas la transcription totale parce que moi je suis un peu ce qu'on appelle une djouloudjéri, c'est-à-dire une peul qui a grandi à Dakar, qui maîtrise pas trop la langue, mais qui a les codes culturels peul. Donc Bouyel, ça me rappelle un peu ce fouta que je n'ai pas connu. Donc quand j'écoute Baba Mal, j'ai l'impression que je gambade dans la savane de Matam, que je suis libre ou que je suis assise à l'ombre de la véranda avec un livre.
Baba Mal, tu sais quoi, c'est une chanson qui donne la chair de poule, la chair de peule aussi, enfin ouais. De ce que tu veux. Ça se passe sur RFI, sur le pick-up dans sol majeur, avec une demoiselle Kane, Ndeye Fatou de son petit nom, Ndeye Fatou Kane, devenu un nom de plume.
Soleil, c'est notre espoir. Soleil, c'est notre espoir. acte de naissance.
Il est sympa ce petit hymne sénégalais chanté par des enfants.
Ouais.
Alors, sur le plan de l'écriture, votre acte de naissance, Ndeye Fatou, c'est ce premier roman que vous avez intitulé « Le malheur de vivre chez l'Harmattan ». C'est un roman préfacé par un certain Cheikh Hamidou Kan. C'est qui ça dans la famille?
Alors, c'est mon grand-père, mon amoureux, mon meilleur copain.
Ouais. Voilà, donc vous êtes sa petite femme, sa petite...
Ouais, voilà, sa petite femme, son amie, sa copine.
Cheikh Hamidou Kan qui donc dit en préambule que dans ce roman, on assiste, je le cite, à la déchéance de Sakina Ba, votre héroïne, et qu'en fait, Sakina Ba, c'est un peu la version contemporaine de l'éternelle Vénus tout entière à sa proie attachée. Et là, il fait référence à la tragédie de Phèdre. Et c'est vrai que le héros racinien, en fait, est d'abord l'héritier et le prisonnier tragique du sang familial. Est-ce que c'est le cas de votre héroïne?
Alors oui, je dirais que c'est le cas. Mais avant de répondre à la question, j'aimerais faire un peu l'historique de l'écriture de ce roman. Parce qu'à la base, je ne me destinais pas à une carrière d'écrivaine. Ça arrivait un peu par accident, parce que je suis toujours une lectrice compulsive. Donc on va dire que c'est l'écriture qui m'a amenée à la lecture. Enfin, c'est la lecture qui m'a amenée à l'écriture, pardon. Et donc, avec le blog, ma petite bulle, donc les gens me lisaient et la petite phrase revenait souvent, tu devrais penser à écrire un livre. Mais moi, écrire un livre, ça n'a jamais été un rêve. D'ailleurs, j'ai un grand-père écrivain internationalement connu.
Un monstre,
ouais, voilà.
Une icône.
Donc, ça ne voulait pas forcément dire que j'allais écrire. Donc, je crois que l'écriture, c'est pas un don qui se transmet de grand-père à petite-fille. Donc, pour en revenir à la question sur Sakina, oui, je dirais que Sakina a connu la déchéance. C'était une jeune femme peule. Tout ce qu'il y a de plus traditionnel dans la France des années 80, avec une génération des premières personnes qui ont émigré en Europe. Donc c'est ça qui a connu la déchéance. Donc c'est pourquoi on l'assimile un peu à la Vénus dans Phèdre.
Alors faut nous expliquer un petit peu plus précisément. Elle est issue de la noblesse qu'on appelle Al-Poulard.
Oui.
Pour moi ça fait partie, je ne connais pas vraiment le dossier, vous allez nous éclairer, Ndeye Fatou, de la famille des Peuls, mais qui serait métissée.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par Al-Poulard?
Alors Al-Poulard c'est typiquement sénégalais, ça veut dire ceux qui parlent Poulard. Il y a les Peuls qui vivent dans le nord du Sénégal. Il y a aussi les Peuls de Guinée, les Peuls de Kolda, toute une famille de Peuls. Donc les Al-Poulard, c'est tous ceux qui parlent Peuls. Donc les premiers Peuls, traditionnellement, on dit qu'ils viennent de la Nubie, de l'Éthiopie, du Ghana, du Mali. Donc c'est très élargi. Mais Al-Poulard, c'est forcément ceux qui parlent Poulard.
Et il y a un système de valeurs attaché à cette noblesse qui se définit par trois attitudes, on va dire. Smentende, je ne sais pas si je prononce très bien. Mounial et Akilo, ça correspond à quoi?
Alors Mounial, c'est la propension à tout endurer, à faire preuve de stoïcisme, quelles que soient les épreuves qu'on traverse. On ne montre pas trop ses sentiments, quel que soit ce qu'il est en train de vivre, même un événement très heureux, très joyeux, il ne le montre jamais.
Phlegmatique.
Ouais.
Et les deux autres attitudes?
Alors les deux autres...
Smetende.
Donc moi, je n'ai pas,
pas
un peu le trait élargi.
Et voilà pourquoi vous êtes une Joudou Djéri.
J'ai grappillé quelques expressions ça et là.
Alors dans votre roman, on voit un peu s'opposer deux mondes, celui de la tradition et de la foi islamique, qui sont incarnés par la génération des mères et des grands-mères, et puis celui évidemment de la modernité, c'est un vieux débat déjà tout ça, modernité incarnée par donc la génération de Sakina et puis de ses jeunes cousines. Elles ont fait des études, elles, et en même temps, elles respectent la génération, les valeurs de ce qu'on appelle la poule à cou, jusqu'à la rencontre d'Ousmane, le boy Dakar, qui est un mauvais garçon.
Alors, j'ai voulu faire un peu un parallèle entre les deux générations de Peuls. D'un côté, on a Sakina, qui a grandi en France, qui aurait pu être une Peul déculturée, qui n'a aucun attachement avec l'ethnie de ses parents. Et d'un autre côté, on a Ousmane. Un peu lui qui n'est pas enraciné dans sa culture, qui rêve de Paris, qui rêve de quitter le Sénégal, qui même qu'on l'a vu depuis qu'il a quitté son village, il n'est plus revenu dans le village, il vit à Dakar. Donc je voulais un peu faire la comparaison entre ces deux mondes-là, montrer que où que l'on puisse être, la culture, on doit la porter en bandoulière, c'est ce qui fait l'essence même de l'être humain. C'est un peu à mon image. J'ai été biberonnée à la culture poulard, à celle wolof. Je suis née et j'ai grandi à Dakar jusqu'à ma majorité. Je suis venue ici où j'ai vécu une décennie. Donc j'essaie un peu de concilier ces deux mondes-là dans ma vie de tous les jours. Donc on va dire que ce roman, c'est en grande partie l'histoire de ma vie, bien que je n'ai pas rencontré un boy Dakar qui m'a brisé le cœur.
Ah voilà, bon. On reviendra, on enquêtera sur tout ça. Mais d'accord. Donc, on va rester une seconde sur cet Ousmane, le mauvais garçon, qui est un enfant de l'exode rural, vous le racontez bien. Et il va être la cause de la déchéance de votre Sakina.
Ousmane incarne tout ce en quoi Sakina a rêvé. Ses parents l'ont gardé dans une coquille, une petite cage dorée où elle n'avait pas le droit de s'échapper, on l'a vu, à part aller à l'école. Elle aidait ses parents dans leur magasin. Donc elle n'avait aucune source de distraction. Donc ça, c'est sous le joie à résider dans ses vacances, quand elle venait à Dakar, retrouver ses copines, Bousso et Salamata. Donc c'était un monde qu'elle ne connaissait pas. Et je crois que c'est ce qui a précipité sa déchéance.
Bon, en même temps, c'est pas le meilleur des partenaires et des princes charmants. En gros, il va pas être sincère dans ses sentiments. Il ne va viser que le visa puisqu'il sait qu'elle habite en France. Et puis ensuite, il va vouloir la nationalité française à travers son mariage. C'est un garçon qui boit, qui prend de la cocaïne et finalement, il va transformer ce mariage en véritable tragédie pour Sakina. Qui est le responsable véritable? Est-ce que c'est l'inexpérience de votre Sakina dans les choses de la vie et dans les choses de l'amour? Ou bien est-ce que c'est l'exil qui déconnecte à la fois des codes et des réalités?
Alors moi, j'ajouterais un troisième facteur qui est la trop grande sévérité de ses parents. Donc en voulant la protéger un peu trop de la vie, on a vu qu'elle s'est cassé les dents. Parce qu'en la laissant un temps soit peu découvrir la vie, avoir de mauvaises expériences, elle aurait pu se relever et faire un peu plus preuve de discernement.
Et l'exil?
L'exil, non, je ne dirais pas l'exil. Parce que contrairement à ce qu'on pense, enfin, de l'observation que j'ai eu à faire, les populations poulards que je rencontre ici sont encore plus enracinées dans leur poulaku. J'ai des parents, des tantes, des oncles, ils me parlent du fouta des années 70-80 que je n'ai pas connu. Ils sont très ancrés dans leur valeur.
Et contrairement à Dakar... Et ça contamine les nouvelles générations qui vivent ici, qui sont nées ici.
Qui sont nées ici, oui. Parce que eux, je crois qu'ils sont plus conscients de qui ils sont. Enfin, nous aussi, on en est conscients. Mais à Dakar, je crois qu'on est dans un processus de modernité qui ne dit pas son nom. On absorbe tout ce qui vient d'ici ou de l'Amérique. On est en train de perdre un tout petit peu notre identité. Donc, c'est pourquoi je tenais à écrire ce roman, pour montrer que même s'il y a des valeurs qui sont déphasées ou passées de mode, on doit toujours les conserver. Alors la française, Lombada, on n'en pouvait plus le t'attendre. 12 mois, c'est vraiment trop long, n'est-ce pas ça là? Voilà Hikogonga, Bousso. Sakina nous a trop manqué. Maintenant qu'elle est là, le trio peut se reformer. Sakina, que l'enthousiasme de ses cousines à son égard émouvait toujours, leur répondit avec le même entrain. Minbouli, mes chéris. La vie sans vous est d'un ennui mortel. Toutes à leur conciliabule, les filles n'avaient pas entendu Baudjel, la mère des jumelles, qui les appelait depuis un bon moment. Et quand elle ouvrait grandement la porte, elles sursautèrent. Mais vous là, ça fait longtemps que je m'époumonne à vous appeler. Je sais que vous avez quantité de choses à vous dire, mais venez d'abord m'aider à servir le dîner. Sakina Biam, tu es exemptée de cette corvée, car je sais que tu dois être fourbue. Celle-ci désireuse de se rendre utile, rétorqua. Allah annenene Baudjel, tu sais que c'est un plaisir. Sur ces bonnes paroles, la dame escortée des trois jeunes filles descendit à la cuisine servir le lachile hako qu'elle faisait mijoter depuis le matin.
Extrait en sol majeur de ce roman Le malheur de vivre, Ndei Fatou Kane. Ça fait drôle hein, de se lire.
Ouais.
Je voulais qu'on entende un peu la langue parce qu'effectivement la narration se fait en français, mais voilà, c'est ponctué par les dialogues en langue, en poulard. Vous y teniez à ça?
Oui, j'y tenais parce que dans ce livre-là, je me raconte un peu. C'est vrai que je n'ai pas eu les expériences amoureuses désastreuses de Sakina, mais d'un autre côté, je voulais creuser un peu dans ma poularitude, si j'ose dire, m'affirmer en tant que poulard. Parce qu'en général, à Dakar, avec mes cousines, mes cousins, ils se moquent un peu de moi quand ils parlent poula et que certaines expressions m'échappent. Je leur dis « Ah, mais toi, tu es une peule de Dakar. » Je fais « Oui, mais je ne le parle pas, mais je le vis au fond de moi. » Donc ce roman, c'est un retour aux sources pour moi. Mais c'était drôle pour moi, enfin, de mélanger peule et français. Et là, je lance lance un clin d'œil à l'un de mes écrivains préférés, le meilleur de toute génération confondue en Afrique, Amadou Kourma, qui dit avec sa phrase que j'aime beaucoup, oui, il a planté une case dans la cour de Molière. Et ça se ressent dans son style d'écriture en mêlant les expressions malinquées, drôles, piquantes, même vulgaires parfois. Donc moi, c'est important de mêler Peul et français.
Et je pense que vous auriez même pu aller encore plus loin.
Oui, mais j'avais épuisé mon lexique d'expression Peul.
Effectivement, ça c'est un argument. Et d'ailleurs, je note que ce roman, vous le déroulez dans les années 80. Pourquoi ?
Parce que je suis fascinée par ce Sénégal que je n'ai pas connu. Parce que je suis fascinée par la période post et pré-indépendance. Parce que je crois que jusqu'au milieu des années 90, le Sénégal connaissait un grand sursaut créatif, que ce soit dans les livres ou dans les films. On créait beaucoup et on le voit encore, les œuvres cinématographiques sont encore à la mode. Et même dans les années 60 ou 50, quand la jeune nation sénégalaise s'apprêtait à être indépendante, on voyait qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. C'est pourquoi j'aime beaucoup avoir des conversations avec mon grand-père sur cette période, pour qu'il m'en apprenne beaucoup.
Où l'on apprend aussi qu'on ne naît pas Ndeye Fatou Kane, on le devient en lisant notamment Simone de Beauvoir, l'auteur du Deuxième Sexe.
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qui l'a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, et d'autre part l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité.
Ah, comme autoportrait.
Vous avez dit féministe, c'est le titre donc de ce livre un peu coup de gueule que vous venez de publier, Ndeye Fatou Kane. Alors, en tant que quoi ? En tant qu'africaine ou en tant que toubab ?
Toubab, non. Je dirais totalement africaine, sénégalaise et peul.
Ouais.
Donc pour moi, c'était important de remettre le féminisme au centre des débats. Parce que à travers une observation que j'ai pu faire, j'ai pu voir que le terme féministe s'apparentait à une insulte de nos jours, au Sénégal surtout. Alors que ce qui est injuste, parce que quand on voit la première génération de féministes africaines, elles proviennent pour la plupart du Sénégal. Donc le combat de ces femmes-là, aujourd'hui, on n'en parle presque plus. On les sollicite pour des événements ponctuels tels que 8 mars ou quelques rares fois elles sont dans leur coin, mais je me dis que ces femmes se sont battues pour que des jeunes femmes comme moi s'affirment, écrivent des livres, voyagent, soient éduquées. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que j'ai eu envie d'écrire. Tout est parti d'une conversation banale que j'ai eue avec un ami qui m'a traité de féministe. Et ça m'a fait réfléchir.
C'est synonyme de quoi dans la tête de celui qui vous insulte?
Alors de femme acariâtre qui se bat contre tout et tout le monde, qui élève la voix un peu n'importe comment.
L'emmerdeuse.
Ouais, voilà. C'est cela.
Alors, on le sent, vous êtes nourrie évidemment de lecture. Mmh. Et vous êtes sensible apparemment, Ndeye Fatou Kane, alors que vous avez donc quel âge?
32 ans bientôt.
Autant un féminisme à la Simone de Beauvoir qu'un féminisme à la Hawa Thiam. Mm-hmm. Et pourtant, leurs combats ne sont pas du tout les mêmes.
Pas du tout. Alors, Simone de Beauvoir, il est vrai qu'on n'est pas dans la même ère culturelle, nous ne sommes pas contemporaines. Mais pour moi, c'est important de l'inscrire dans ce livre, parce que quand on parle d'études de genre ou de féminisme tout court, on pense à elle, avec le deuxième sexe. Et plus tard, avec la femme indépendante qui regroupe certains extraits très intéressants du deuxième sexe. Avec sa célèbre phrase, notamment, on n'est pas femme, on le devient. Que l'on pour contextualiser jusqu'à présent. Donc je voulais prendre certains extraits, voir quelle est leur résonance aujourd'hui. Même s'il y a des termes que je trouve un peu extrêmes, notamment sur la maternité, sur l'allaitement, sur le mariage, que je ne partage pas du tout. Mais Simone de Beauvoir, c'est important de la voir, elle, dans ce livre-là, pour l'ouvrir.
Et Hawa Thiam, auteur de La parole aux négresses,
oui,
titre qui est paru en 1978, mm-hmm. Alors elle se penche par exemple sur d'autres thématiques, ça n'a rien à voir avec Simone de Beauvoir, elle se penche par exemple sur l'infibulation, l'ablation des grandes et des petites lèvres, et puis bien sûr l'excision. Et elle découvre, et c'est quelque chose dont on est conscient aujourd'hui, que sur la base de témoignages, en fait les premières responsables de tous ces actes, ce sont les femmes.
Alors Hawa Thiam, pourquoi? Parce que c'est une perle aussi. Et on a vu que en 1978 déjà, écrire un livre sur ces thèmes-là, j'ai trouvé ça très osé. Et je n'ai pas retrouvé dans la littérature sénégalaise une femme qui a écrit un livre de cette ampleur-là. Je qualifierais ce livre d'enquête sociologique parce qu'elle ne s'arrête pas seulement au Sénégal. Elle fait une radioscopie de plusieurs pays d'Afrique et l'on voit qu'il y a des causes qui se rejoignent. Que les femmes soient en France, au Sénégal ou au Mali ou même au Kenya, on voit que les souffrances qui affectent les petites filles, c'est souvent la faute de leur mère ou de leur grand-mère, de leur entourage respectif.
Oui, et le témoignage d'une jeune malienne de 35 ans ne veut pas que ses propres filles soient excisées. Mm-hmm. Et sa mère, lorsqu'elle a le dos tourné, pratique l'excision.
Oui, il le fait sur elle, oui.
Donc c'est sa propre mère, parce qu'on peut se demander qui est responsable. Souvent, on se tourne vers les pratiques islamiques. Et c'est pas forcément la première des raisons.
Oui, parce que la religion a bon dos. Quand on veut exciser, pratiquer une infibulation ou une clitoridectomie sur les petites filles, on invoque souvent l'argument religieux. Il n'est dit dans aucune sourate, aucun verset, qu'on doit opérer l'excision sur les filles. Donc, au-delà même de l'excision, Awacham creuse encore plus loin en parlant de la polygamie. On voit dans un pays comme la Guinée que c'était interdit. L'ancien président Sékou Touré l'avait fait interdire. Et je qualifierais ce livre d'enquête sociologique.
Alors, autre porte-voix des femmes au Sénégal, c'est Maria Maba, née en 1929 dans une famille musulmane fortunée de Dakar. Après des études brillantes, elle sort major de promo. Elle cogite et puis elle commence un peu à analyser, à scruter le sort des femmes sur le continent. Pour les non-féministes et les autres, un court extrait d'une si longue lettre qu'elle a publiée en 1979.
Je survivais. Je me débarrassais de ma timidité pour affronter seule les salles de cinéma. Je m'asseyais à ma place, avec de moins en moins de gêne au fil des mois. On dévisageait la femme mûre, sans compagnon. Je feignais l'indifférence. Alors que la colère martelait mes nerfs et que mes larmes retenues embuaient mes yeux. Je mesurais aux regards étonnés la minceur de la liberté accordée à la femme. Car, première pionnière de la promotion de la femme africaine, nous étions peu nombreuses. Des hommes nous taxaient d'écervelés, d'autres nous désignaient comme des diablesses. Mais beaucoup voulaient nous posséder. Combien de rêves avions-nous alimentés désespérément qui aurait pu se concrétiser en bonheur durable et que nous avons déçu pour en embrasser d'autres qui ont piteusement éclaté comme bulles de savon, nous laissant la main vide.
Une si courte lettre, version sol majeur, bah oui, parce qu'on n'a pas le temps de diffuser une si longue lettre dans son intégralité, mais je remarque que la voix féministe de Mariama Ba sur RFI touche la nouvelle génération, votre génération à vous, de femmes sénégalaises, de femmes poulard, telles que vous, Ndeye Fatou Kane, pourquoi ?
Alors, le féminisme de Mariama Ba n'a pas pris une ride 36 ans après sa disparition. Le féminisme associatif, le regroupement de femmes, la combinaison de forces, on l'a vu même au-delà de sa carrière littéraire, comment elle était engagée dans l'association des anciennes logophiennes, les anciennes jeunes, les premières diplômées sénégalaises. Et sa voix a porté. Elle était une femme vraiment engagée. Et on l'a vu dans sa vue personnelle. Mariée trois fois, divorcée, en quête de liberté. Donc c'était pourquoi j'ai tenu à la voir dans ce livre. Avec une si longue lettre et avec un chant écarlate aussi, qui est son deuxième livre, qui parle de métissage, des premiers mariages entre Français et Sénégalaises. Donc elle était vraiment une femme en avance sur son temps.
Mais vous diriez donc que sur toutes ces questions, polygamie, excision, système de caste aussi, qui hiérarchise la société sénégalaise, les choses n'ont pas changé tant que ça depuis les années 70 pour les femmes sénégalaises?
Elles n'ont pas changé du tout. Quand on voit aujourd'hui le boom qu'il y a, beaucoup de mariages polygames, que les femmes qui ont fait des études, qui occupent de hauts postes de cadre, mais se réclament deuxième, troisième ou quatrième femme, je me dis qu'il y a un fort recul de liberté et je ne me l'explique pas.
Alors vous regardez la cause féministe aussi du côté afro-américain, avec une certaine Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une icône, c'est l'icône nigériane, qui est installée aux États-Unis aujourd'hui. C'est un esprit brillant qui déconstruit les préjugés racistes et sexistes et qui, dans son roman Americana, égratigne gentiment une certaine Beyoncé en disant, vous êtes au courant, nous aimons tous Bey, Mais pourrait-elle nous montrer juste une fois à quoi ressemblent ses cheveux lorsqu'ils poussent sur son crâne? Et alors, ce qui est amusant, c'est que la star n'a pas été trop rancunière, puisque dans son morceau « Flawless », la star a samplé un extrait d'un discours de Chimamanda qui dit à peu près « Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons « Tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire, sinon tu seras une menace pour les hommes. » Comme je suis une fille, on s'attend toujours à l'esprit que le mariage, c'est ce qu'il y a de plus important. Vous apprenez à vos filles que leur sexualité n'est pas comparable à celle des garçons. Féministe, c'est une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique des sexes.
We teach girls to shrink themselves, to make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I am expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
Beyoncé en féministe, alors est-ce que vous aimez Ndeye Fatou Khan?
Pas du tout.
Pourquoi?
Autant je suis fan de son mari Jay-Z, dont j'ai tous les albums et j'écoute des chansons tout le temps. Mais Beyoncé, je crois qu'elle incarne la version édulcorée, light, fun du féminisme. Je ne me reconnais pas
bling
du tout.
Bling bling.
Ouais, voilà, bling bling. Je ne me reconnais pas du tout dans cette version du féminisme-là. Et Chimamanda, c'est le fruit d'une rencontre. Elle est venue en 2015 à la Maison de la Poésie présenter la version traduite américana. Et Gallimard avait organisé une soirée à la Maison de la Poésie. Et je l'avais déjà lu son premier, Autour de ton cou, son recueil de nouvelles, son premier livre. Et je me suis dit que je vais aller la voir, l'écouter. Et ce fut vraiment un coup de cœur littéraire. J'ai tout aimé en elle. Sa posture, les idées qu'elle défendait, sa combativité.
Quelle forme de féminisme alors vous séduit chez elle?
The happy feminism.
C'est-à-dire?
Alors, le vent de fraîcheur qu'elle y apporte. Pour dire qu'on peut être féminine, bien dans sa peau, apprêtée et pimpante, et être féministe. L'un n'empêche pas l'autre. Mais dans l'imaginaire collectif africain, une féministe, c'est celle qui a longtemps duré en Europe, qui a perdu tout repère africain et qui vient se battre contre ses frères et ses sœurs. Donc j'ai beaucoup aimé l'approche de Chimamanda. On est plus proche idéologiquement, et c'est un peu ma contemporaine, 8 années nous sépare. Donc je me suis beaucoup reconnue en elle, et c'est un peu là qu'inconsciemment l'idée de vous avez des féministes a commencé à germer.
Donc on peut être féministe
et féminine
sur talons aiguilles,
ouais,
et africaine,
ouais,
c'est
voilà,
ça
surtout, ouais.
Parce que c'est ça le tabou absolu.
Parce qu'en général, les gens qui disent que les féministes sont, elles copient les européennes, elles sont occidentalisées, tout babisées, pour reprendre une expression au Wolof. Mais non, en creusant un peu dans l'histoire, on se rend compte qu'il y a eu des reines-mères, notamment Ransom Kuti, la mère de Fela Kuti, Ndataya Limbaud, qui était l'une des premières femmes empereurs, Aline Sitowe Diatta, une résistante casamanceuse. Donc toutes ces femmes-là, elles étaient féministes à leur façon.
Et alors vous, ce sera ma dernière question sur ce sujet, Ndeye Fatou, vous pensez jouer finalement dans quelle catégorie de femme? Est-ce que vous êtes la narcissiste, l'amoureuse ou la mystique?
Un peu de la mystique et de l'amoureuse. Un mix des deux me conviendrait parfaitement. Amoureuse de la vie, des gens. Amoureuse.
Des hommes?
Oui, des hommes aussi. Hein,
il faut peut-être ne pas les oublier dans cette affaire.
Oui.
On fait avec,
on fait avec
ou contre les hommes?
On se complète. Parce qu'en faisant contre, je crois que le combat n'aura pas la résonance qu'il doit avoir. Donc on fait avec eux, on va vers eux, on leur explique lentement mais sûrement, donc ils comprendront. Et la mystique aussi.
Pourquoi?
Parce que une bonne dose de spiritualité est importante dans la vie. Il faut croire en quelque chose, c'est ce qui permet d'avancer.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name.
said Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. My skin is yellow. My hair is long. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia.
Sol majeur sur RFI plus une Nina Simone avec Four Women, c'est-à-dire que le réseau Sister fonctionne bien chez vous, Ndeye Fatou Kane. Pourquoi cette chanson ?
Pourquoi cette chanson ? Pourquoi Nina Simone déjà ? Eunice Kathleen Wayman, c'est aka Nina Simone, de son vrai nom, Eunice Kathleen Wayman. Alors c'est une femme que j'admire pour sa carrière de chanteuse, pour son activisme. Parce que dans l'Amérique des années ségrégationnistes, elle a osé se lever, faire porter sa voix, notamment via ses textes et sa posture de femme, tout simplement. C'est pourquoi j'aime beaucoup ses chansons. Et en lisant, en m'informant sur sa vie, je me suis reconnue un peu en elle, pour ce sens des combats, son courage, et cette petite dose de je m'en foutisme qui est en elle, pour dire un peu tout ce qu'elle pense. Quoi,
et vous appelez ça du je m'en foutisme, vous ?
Oui, un peu, ouais. Dire un peu tout ce qu'on pense, quelles qu'en soient les conséquences. Alors, j'aime beaucoup sa discographie, et Four Women particulièrement, parce que c'est une ode à la femme noire. La femme noire dans toute sa splendeur, avec ses cheveux crépus, avec ses formes généreuses, avec sa couleur ébène, pour dire qu'elle ne s'appelle pas Sarah, qu'elle n'est pas la Sarah, la white de l'Amérique mainstream.
Pour dire en tout cas que dans votre vie, qu'est-ce que c'est ? C'est ces boucles d'oreilles qui font ce bruit ? C'est non, n'enlevez surtout pas, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces boucles d'oreilles ? Il faut les décrire un tout petit peu.
Alors c'est ma mère qui me les a fait, parce que ma mère elle est créatrice de bijoux. C'est elle qui me les a fait avec la nacre, de l'ambre, ouais.
Donc vous êtes pleine de bijoux, pleine de mots aussi, en poulard, en français et en prière.
P.
P comme pays secret. Pays d'enfance.
Que vous rappelle cette incroyable chorale chrétienne Julia Jouga, Ndeye Fatou Kane ?
Alors cette chanson, c'était le jingle d'une radio dakaroise, Wal Fadjri. Donc tous les matins, quand on allait à l'école, à 8h, donc c'était le signal du journal. Toutes ces années, dès que je l'écoute, je pense à ça, à mon père qui me conduit à l'école. On est bloqué dans la circulation et cette chanson commence.
Est-ce que ça veut dire que dans ce pays premier, donc le Sénégal, enfance et croyance ont été de pair ?
Oui, parce que je suis née et été élevée dans une famille musulmane. mais je suis allée dans une école catholique, la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
Et cette gymnastique entre chrétienté et islam était tranquille?
Était normale. Je rentrais à la maison, je récitais le Ave Maria, je chantais les cantiques que j'avais entendus à la prière le matin, parce que tout le monde était mélangé, chrétienne comme musulmane. On était obligé d'écouter la prière, le rosaire, le Ave Maria, le Pater Noster. Donc ça restait dans ma tête. Donc quand je rentrais, mes parents n'avaient pas de principal souci avec ça. Donc je chantais les cantiques et à l'heure de la prière, je priais.
Et ça ne dérangeait pas, par exemple, votre grand-père qui était imam, non? Vous n'avez pas un grand-père imam?
Mon grand-père paternel qui était imam, que je n'ai pas connu, qui est décédé avant ma naissance, mais dont mon père m'a beaucoup parlé, comme un homme sévère à l'extrême, qui n'avait pas été à l'école, mais qui avait insisté pour que ses fils y aillent et ses filles aussi pour recevoir l'instruction des colons.
Votre destin à vous, dans cette noble lignée des Al-Poulard à laquelle vous appartenez, c'était quoi finalement?
C'était de m'affirmer, parce que mon père ne m'a jamais fait sentir, comme c'est le cas généralement chez les Al-Poulard, que j'étais une fille, que je devais rester à ma place. Je le taquine souvent en lui disant qu'il m'a ouvert au monde en me mettant un livre entre les mains. Donc je crois qu'il m'a faite intellectuellement. Donc si je suis maintenant comme je suis, c'est en grande partie grâce à lui.
Il vous a fait intellectuellement et peut-être même politiquement, parce que la chose politique s'est invitée à la table familiale assez tôt. On revient, d'après ce que j'ai compris, régulièrement dans les conversations sur la fameuse crise de 1962, la fameuse fracture entre Senghor et Mamadou Dia, qui se souvient.
Je ne pouvais pas imaginer un seul instant qu'il puisse y avoir vraiment un contentieux quelconque entre lui et moi. D'autant que lorsque, quand il y a eu également cette fameuse crise, vous se plaignez de certains nombres de mes ministres, j'ai échangé les ministres, j'ai dit maintenant, je peux même aller plus loin si tu veux. Je suis prêt à m'effacer, à faire campagne à travers le pays pour un régime présidentiel. Il m'a dit pas question. 7-8 mois après, il me prête cette intention-là à moi de venir lui faire un coup d'État. Je n'ai pas compris ça. Il m'est arrivé, moi, d'enlever ma veste en plein Paris, n'est-ce pas, prêt à me battre avec des étudiants qui s'acharnaient contre lui. Moi, vraiment, j'étais le talibé, plus qu'un disciple, ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous un baïfal, c'est-à-dire un disciple inconditionnel.
Extrait sur le majeur du documentaire d'Ousmane William Bai, intitulé « Mamadou Dia président ». Ce que je comprends, c'est que dans cette crise sénégalaise de 1962, vous avez choisi votre camp, Ndeye Fatou Kane.
Totalement. En étant une djihadiste de la première heure.
Une djihadiste.
Djihadiste, oui. Peut-être parce que mon grand-père a joué un rôle de premier ordre.
Et non une singorienne, donc.
Non, pas du tout. Et je l'assume.
Pourquoi?
Alors, parce qu'il a été un ministre du régime Senghor. Et il a été obligé de vivre en exil en Côte d'Ivoire quand Mamadou Dia a été emprisonné, comme nombre d'ailleurs de ses proches, qui ont été obligés de choisir leur camp, comme ils étaient djihadistes. Alors je crois qu'après l'emprisonnement de Mamadou Dia et de certains de ses compagnons, le président Senghor a opéré une purge. Pour dire que soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Alors cette fameuse crise de 1962, elle a été occultée longtemps. On n'en a parlé dans aucun ouvrage d'histoire. Mamadou Dia a été blacklisté, son nom n'était pas cité. Et sa famille en a souffert. Et pour moi, c'était important d'aller au cœur de mon histoire. Parce que l'histoire politique du Sénégal, c'est aussi la mienne.
Donc en fait, l'aura de Senghor est un peu écornée. À vos yeux, c'est une figure assez autoritaire du pouvoir sénégalais.
Oui, autoritaire. Parce que je crois que si on pose la question de savoir quel est l'héritage qu'il nous a laissé aujourd'hui, moi je dirais un héritage en demi-teinte. D'un côté, on a l'homme de lettres, reconnu internationalement, adoubé et même vénéré. Et de l'autre côté, on a l'homme politique qui traquait ses opposants.
Alors c'est intéressant que votre génération se penche sur l'histoire du Sénégal, l'histoire d'hier, mais ça c'est hier. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal de Macky Sall vous intéresse avec la crise des étudiants, la crise alimentaire, le retour éventuel d'un certain Karim Ouad au Sénégal et en politique?
Oui, ça m'intéresse, je m'y intéresse, hein, parce que c'est mon pays, donc je m'y intéresse, mais de loin, parce que je ne me reconnais pas dans la façon de faire la politique. La politique est l'art de gérer la police, la cité. Mais quand je regarde la scène politique sénégalaise aujourd'hui, tout pour moi, rien pour le peuple. On est avec le peuple durant un moment pour se faire élire, dérouler un programme. Et une fois qu'on est élu, on est dans sa tour d'ivoire. Parce que je crois que Macky Sall, qui est le premier président sénégalais né après les indépendances, qui a fait toutes ses humanités au Sénégal, dans l'université chère, Anta Diop, qui a connu les troubles qu'elle a connus. Donc je crois qu'il serait plus à même de régler cette crise universitaire qui dure déjà depuis un bon moment, depuis les années de Abdoulaye Wade. Donc il était, lui, plus que tout autre président, il devait prendre à bras le corps cette crise et la régler une bonne fois pour toutes.
Donc vous êtes une très très grande déçue de la politique post-indépendance.
Oui.
Mythe du retour.
La rue sénégalaise, façon Djibril Diop Mambéty, avec cette fameuse petite vendeuse de soleil, parce que vous avez ce film bien connu, vous l'avez au cœur.
Oui, j'aime beaucoup ce film, parce qu'il montre en premier plan une petite fille diminuée, sans défense, dans la rue.
Elle est handicapée.
Oui, handicapée. Dans la rue, on prend à tous ses vautours, prêts à lui sauter dessus. Et j'aime beaucoup ce film pour la dose d'humanisme qu'il a apporté. Un très très beau film, comme toute la filmographie de Mambéty.
Et de Samben Ousmane, oui, que vous adulez aussi. Est-ce que vous avez des références françaises en matière de cinéma?
En matière de cinéma, non.
Zéro référence.
Ouais, zéro référence. Autant j'en ai quelques livresques. Mes films, non.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à vous, Ndeye Fatou Kane, ces 10 dernières années, entre votre arrivée en France en 2007 pour faire vos études, il y a eu un crochet, je crois, pour faire une prépa de nouveau à Dakar, et puis votre retour vraiment au Sénégal il y a 2 ans.
Oui. Après 10 ans ici, pour moi, la question du retour se posait. J'avais envie de retourner chez moi. Pour mettre à profit un peu l'expérience professionnelle que j'avais eue ici, dans certains grands groupes de transport français. Et on va dire que c'était première expérience professionnelle en terre africaine, c'est mal passé. Et peut-être que je n'étais pas prête pour ce retour. Maintenant, je me pose des questions.
Qu'est-ce qui s'est mal passé au Sénégal ?
Peut-être que le retour était prématuré. Parce que quand je me suis pas rendu compte que moi-même j'avais changé, j'avais pris certaines habitudes et le regard des gens.
Vous étiez occidentalisée ?
Peut-être, mais pour moi j'étais toujours la même. Mais le regard des gens, leur attitude à mon encontre avait changé. Ils me voyaient comme celle qui venait de là-bas. Alors que j'avais vécu 20 ans de ma vie au Sénégal, donc pour moi je me sentais pleinement sénégalaise.
Donc difficulté, on va dire, d'intégration ou de réintégration au Sénégal?
Je dirais de réinsertion, parce que intégration, j'ai du mal un peu avec ce mot. De réinsertion, oui, totalement. Et avec le recul, je me dis que j'aurais dû attendre encore un peu plus avant de partir.
Vous savez quoi, je voudrais qu'on aille quand même voir du côté de l'arbre à palabre et de celui qui veille sur cette émission depuis le début, celui de Cheikh Hamidou Kane, qui s'est penché sur toutes ces questions d'identité et d'altérité en faisant mourir Samba Diallo, son personnage de l'aventure ambiguë.
Je crois que j'ai fait mourir Samba Diallo de propos délibérés pour rappeler que ce mouvement de l'un vers l'autre, des noirs vers les blancs, n'était pas sans risque. Sans risque de conflit, d'antagonisme, et de renfermement sur soi, sans risquer de mener à ce que quelqu'un d'autre appelait les identités meurtrières, Malouf. Et j'ai fait apparaître le personnage du fou pour prévenir que dans ce mouvement de rencontre, on pouvait aboutir à des gens qui refusent la rencontre, qui refusent la synthèse. J'avais le pressentiment des intégrismes qui allaient se advenir 2 ou 3 générations après.
En étant sous le regard d'un sacré papy, d'un sacré grand-père, ce fameux Cheikh Hamidou Kane, dont vous avez lu évidemment très attentivement l'aventure ambiguë, Je me suis demandé si vous reviviez vous-même le dilemme de son personnage central, Samba Diallo, c'est-à-dire, je posais ma question, l'adapter à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites finalement de cet héritage Al Poulard, dont on a parlé un peu aujourd'hui, vous qui faites le choix finalement de vivre dans l'Hexagone ?
Alors, l'héritage Al Poulard, ce n'est pas une question de lieu pour moi. Où que je puisse être dans le monde, je sais que je suis Peul, je suis Sénégalaise, c'est ancré en moi. Mais je suis aussi pour l'ouverture au monde, pour reprendre un peu le président Senghor, enracinement et ouverture. Je suis pour l'ouverture au monde, pour la découverte d'autres horizons. Et ne pas être dans mon coin prostré à me dire que je rejette tout ce qui vient de là-bas. Non, on peut faire cohabiter les deux mondes. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. Je sais que je suis sénégalaise, mais je sais aussi que je m'imprègne de la culture occidentale, de ce qui est positif en elle. Et ça me permet de façonner mon être.
Un sol majeur.
Au générique de cet En Sol Majeur consacré à Ndeye Fatou Kane, un blog dont on n'a pas parlé, mais que j'invite les auditeurs à consulter. Ce que j'ai dans la tête, ma petite bulle, c'est son nom. On y trouve tous vos coups de cœur littéraires, puis des chroniques aussi, sur par exemple « Comment éduquer nos garçons ?» Bonne chance. Et puis un livre pour compléter, intitulé « Vous avez dit féministe ?» C'était aux éditions L'Harmattan. Vous n'êtes pas Beyoncé, mais vous êtes Jay-Z, on a bien compris. Oui. Donc on va refermer cet En Sol Majeur avec Hard Not Life. Not Life. Pourquoi Jay-Z ?
Parce que c'est l'un des premiers que j'ai découvert, les premiers rappeurs. Mon frère m'a initié à son rap et depuis lors, je ne décroche pas.
Vous préférez le féminisme de Jay-Z que de Beyoncé ?
Enfin, pas le féminisme, mais plutôt la posture, les paroles et le parcours de vie aussi. Donc je suis plus Jay-Z que Beyoncé.
Take the bass line out. Uh-huh. Let it bump.
It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Steady treated, we get kicked. Steady kisses, we get kicked. It's a hard knock.
From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard. From the dope spot with the smoke block, flinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell. My only hell, but since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips or shots. And if you with me, mama, rub on your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Uh-huh, let's take the dough and stay real jiggy. Uh-huh, let's sip the Chris and get pissy-pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling our house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like still, y'all don't know me. Shit, I'm tight grill. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me?
En Sol Majeur avec Facebook, Twitter et puis en podcast sur notre application Pure Radio et puis bien sûr derrière votre poste chaque samedi, chaque dimanche à 14h10 temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve et on vous espère la semaine prochaine avec Audrey Célestine. À la semaine prochaine.